carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'Académie des Beaux-Arts organise depuis 1975 un Grand Prix d'architecture. Le prix est un concours sur un thème donné, ouvert à tous les architectes et étudiants en architecture, de moins de 35 ans, ressortissants ou non de la communauté européenne. Il est doté de trois prix. Premier prix, 25 000 euros. Deuxième prix, 10 000 euros. Troisième prix, 5 000 euros. Trois lauréats sont donc récompensés au terme d'une épreuve en trois temps qui se déroule sur plusieurs mois. La section d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts est très mobilisée pour ce Grand Prix qu'elle a considérablement modernisé ces dernières années. Deux principes, l'utilisation de l'informatique et un thème du concours ancré dans les grands problèmes cruciaux de nos sociétés. Avec nous pour en parler à Canal Académie, j'accueille Michel Folliasson et Claude Parent qui se sont fortement impliqués en faveur de cette modernisation et qui sont aussi les deux présidents du jury de ce Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors le concours repose sur un cycle thématique de 3 ans. Donc là il s'agit du cycle 2007-2009 pour lequel vous n'avez pas manqué d'ambition puisque vous avez choisi pour sujet le nouvel établissement humain. Claude Parent, quels enjeux de société vouliez-vous que les candidats explorent ?
Je voulais qu'ils se rendent compte dans quelle société ils vivaient. Nous voulions qu'ils se rendent compte également que pour le moment, il n'y avait pas grand projet fédérateur de l'avenir de cette société en ce qui concerne l'architecture et que tout exercice qui permettait de réfléchir sur ce grand sujet qui va prendre une acuité effrayante, pour ne pas dire terrifiante, dans les années à venir, soit mise en place notamment par l'Académie. C'était un de ses devoirs. Pour nous.
Un devoir d'inciter à réfléchir et à faire réfléchir de jeunes générations. Ce point crucial,
sur
l'avenir de la ville demain.
Enfin, de la ville demain, l'avenir devenir du monde, c'est-à-dire de la façon dont ces milliards d'individus qui sont en train de se développer à outrance et qui ont besoin de, non seulement de survivre, mais de se loger, d'être protégé des éléments qui ne s'annoncent pas si agréables que ça, d'après les gens qui font de la prévision là-dessus. On voulait donc que ce soit dans les consciences, alors que dans les écoles, on n'en parle pas à ce niveau-là. On raconte peut-être des histoires sur le futur, mais on ne leur fait pas peur en montrant l'urgence de l'histoire et le manque, le dénuement de projets dans lesquels, devant lesquels nous sommes. Il faut le dire, faut pas avoir peur, on n'a rien dans les poches. On n'a pas, comme avant, les architectes avaient des piles de dossiers dans lesquels ils pouvaient répondre à telle demande du monde. Maintenant, non. Non, on est enveloppé par des événements dramatiques et nous n'avons pas encore réfléchi à des formulations possibles de réponse à ces drames à venir.
Alors, ces drames, Michel Folliasson ?
Oui, je voudrais ajouter qu'on a aussi, avec ce concours, émis la prétention qu'on veut éveiller l'attention des jeunes architectes sur un rôle qui est le leur, de ne pas se contenter de vouloir être ceux qui réalisent des bâtiments, mais qui repensent la société, et que ces architectes s'impliquent au titre de leur formation exactement pour nous apporter les solutions, comme le dit très justement Claude Parent, on n'a rien dans les portefeuilles. Or, on n'a rien pourquoi ? Parce qu'on n'a pas soulevé le problème. Le jeune architecte ne se pose pas le problème sous cet angle-là, et c'est pour ça qu'on veut éveiller son attention et essayer de l'impliquer.
Vous vouliez casser des modèles existants ou ces modèles ou pas ? C'est ça l'idée ?
Non, mais il faut repenser
c'est
complètement.
C'est libérer l'imagination des candidats aussi ?
On voulait leur éveiller l'attention sur le fait qu'on change de dimension totalement. On change de nombre d'individus et on est obligé de changer de monde. On ne change pas de monde pour des problèmes esthétiques, on ne change pas de monde pour des problèmes de rapport à l'architecture. On change de monde parce que le monde nous pousse derrière et qu'il faut répondre.
Donc il y a urgence.
Il y a urgence.
Alors, de quel territoire justement les candidats devaient-ils partir ?
On voulait les laisser très libres dans ce domaine.
Claude
parce
Parent.
Que tu veux bien caractériser ce prix, les réponses qu'il reçoit de l'extérieur. Pas seulement de ceux qui font le concours, ça on en parlera plus tard quand on regarde les projets. Mais nous, nous sommes étonnés, les membres du jury, quand ils rencontrent la presse, quand ils rencontrent les gens qui vont voir et qui commentent nos résultats, nous sommes étonnés qu'ils ne comprennent pas bien le pourquoi de cette chose. Ils ne comprennent pas bien pourquoi on ne répond pas par des images ou par des solutions, parce que dans l'esprit des... Moi, je crois, c'est une idée que j'ai, dans l'esprit de ce qu'on peut appeler le public, qu'il soit l'ensemble de la population, qu'il y ait les gens concernés par l'architecture ou pas. Dans l'esprit, il y a le fait que les architectes n'ont pas à se mêler de ces grands problèmes. Ça, c'est une direction de la société qui a commencé notamment avec le moment où on s'est préoccupé plus de la société que l'individu, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. On a penser, et on pense toujours, que c'est un problème qui n'est pas pour l'architecte. J'ai été interpellé par un de mes amis, pourtant que je connais depuis des années, qui m'a dit « Mais, écoute, parent, ce n'est pas à l'architecte seul, maintenant, de décider de problèmes pareils. C'est à une équipe, c'est à un gouvernement, c'est à un rassemblement mondial. Finalement, en attendant le rassemblement mondial sur l'architecture, on ne fait rien et la crise s'accroît. » Et moi, je lui dis non. L'architecte a pour devoir de proposer. Après, vous en faites ce que vous voulez. L'architecte n'a pas d'autorité en la matière, mais il a devoir impératif de dire ben, « j'ai réfléchi, voilà mes réflexions,
de
faites-en ce que vous voulez ». Et en ce qui concerne notre travail auprès des concurrents, des jeunes, c'est de leur dire la même chose, c'est de leur dire « inventez ». C'est pour ça qu'on ne leur donne pas de contraintes géographiques. Parce que si on leur donne ces contraintes dont vous parlez, c'est ce pays-là, c'est cet endroit-là, c'est ce climat-là, il est au bord de la mer, etc., ils vont s'embarquer avec l'analyse du site et ils vont perdre le grand problème qu'on leur pose, le grand projet, le grand avenir.
Donc, ce sont des questions d'environnement, d'énergie, des problèmes auxquels les sociétés d'aujourd'hui se sont confrontées, que vous avez voulu que les candidats intègrent d'emblée sur des projets ou justement dans un sujet où il n'y a pas de site défini exprès pour libérer leur imagination. C'est ça, Michel Folliasson ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en disant qu'il fallait éveiller les jeunes architectes. Alors, obligation de penser, de réfléchir, de proposer. Et comme le dit très justement Parent, l'architecte n'est pas doué du tout d'autorité pour le faire exécuter, mais moi je crois beaucoup à la vertu de l'homme seul pour penser. L'équipe ne pense pas, l'équipe elle développe une idée, éventuellement, sous le contrôle encore de quelqu'un, mais la réalité c'est que celui qui a l'idée, c'est en général l'homme seul qui peut trouver une idée.
C'est parce que dans l'organisation du concours, vous faites concourir chaque candidat travaille seul sur ce projet, sur 3 épreuves, dont une montée en loge de plusieurs heures. Et c'est un travail personnel.
C'est ça qui nous intéresse.
Et c'est ça qui est intéressant dans ce concours. Quelle est la particularité du Grand Prix d'architecture par rapport aux autres prix, justement ?
Il n'y a pas d'encadrement. Non seulement il n'y a pas d'encadrement, mais il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire, c'est la différence d'une école. Une école, c'est pas tyrannique, une école d'architecture, c'est assez ouvert. C'est pas une prison, c'est pas un monastère, mais c'est un encadrement. C'est un cadre. Et les élèves, les jeunes élèves, le plus dur, moi je me souviens quand j'étais jeune, heureusement j'étais révolté avant de naître, moi. Mais heureusement parce que je voyais bien que dans l'école où j'étais, je ne pouvais pas manifester au-delà du cadre, que c'était très mal vu et que c'était même refusé. Donc là, il s'agit de prendre ses distances par rapport à l'enseignement, et de jeter dans le vide. Alors, évidemment, ce qu'on peut nous reprocher, c'est qu'on prend des gamins de 30 ans ou de...
Ou de 25.
De 25 ans, et on les jette dans le vide. Et on a insisté avec Folliasson, dès qu'on a commencé à faire des programmes communs, sur justement, c'est cruel, c'est méchant, mais c'est pour leur bonheur, c'est pour développer leur appétit d'imagination, c'est pour les lancer dans l'imaginaire. On leur a enlevé des repères.
Voilà, pour les libérer.
Pour les libérer. Alors... Et c'est pour ça que c'est dur pour eux, et c'est pour ça que nous n'avons pas plus, peut-être, de candidats.
Combien de candidats se sont présentés, par exemple, cette année ?
Cette année, il s'en est présenté 103,
oui.
Ce qui est un petit record parce que le nombre des concurrents ne cessait de s'amenuiser,
oui.
Et l'année précédente, on n'en avait que 65.
Mmh. Ah oui, 103, donc c'est...
Alors,
le...
comme le dit Claude Parent, par contre, il y a une chute entre les 103 inscrits, mmh. Il n'y en a eu que 40 qui ont fini par déposer. Alors, tout ça, ça vient d'une espèce... D'abord, il y a des problèmes d'emploi du temps... Puisque nous sommes hors école,
oui.
Donc on n'est pas dans un cursus universitaire. Donc on a toujours des grosses difficultés pour arriver à insérer notre concours dans les calendriers que sont les calendriers des jeunes architectes,
puisque
des trucs en fin d'études.
Des étudiants ou des jeunes professionnels peuvent venir, il suffit d'avoir moins de 35 ans.
On a de plus en plus d'architectes, de moins en moins d'étudiants, ce qui est dommage d'ailleurs, et c'est un truc qu'on est en train d'examiner pour voir comment on peut réagir à ça. Mais au même titre que vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais notre concours a d'abord été ouvert aux Européens,
oui.
Et maintenant il est ouvert à peu près tout le monde, en ce sens que si vous êtes un étranger à l'Europe, mais que vous travaillez en Europe et que vous avez des contrats en Europe, vous pouvez vous inscrire au concours. Et c'est comme ça que cette année, on a eu 22 candidats de nationalité étrangère. Et dont des gens du Brésil, des gens du Pérou, des gens de Pologne, de Portugal, de Serbie, de Belgique, etc. Donc, si vous voulez, on est arrivé à un panel étalé. Notre ambition, c'est d'essayer d'augmenter, si l'on peut, le nombre de rendeurs. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut absolument qu'on étudie les retombées possibles. Cette année, par exemple, il y a eu des réponses qui sont intéressantes et il faut qu'on les commente, il faut qu'on le fasse connaître au public pour que ça donne un appétit de s'inscrire et de faire.
Ouais, ça donnera peut-être l'objet d'une publication plus tard, je ne sais pas.
Oui, alors d'ailleurs, la réunion qu'on a aujourd'hui, on va essayer de l'exploiter aussi. On veut faire paraître quelque chose. Parce que vous avez dit que le concours était sur 3 ans,
ouais,
c'est un fait nouveau.
Ouais, on va justement expliquer ça.
D'accord.
Parce que ce concours repose sur un cycle de 3 ans.
Oui, mais
qui
ça
a commencé.
C'est nouveau.
Ça c'est nouveau.
Alors, ça c'est nouveau.
C'est nouveau depuis l'an dernier.
C'est une idée qu'on a eue avec Parent au moment où Claude Parent a proposé un projet qui était donc l'établissement humain. La définition d'un nouvel établissement humain. Et on s'est aperçu très vite que la richesse du titre permettait de faire autre chose que de se contenter d'une année.
Mmh.
Alors, on a décomposé donc, en plusieurs éléments. Le premier étant de voir le développement d'une nouvelle cité. La deuxième étape étant de voir qu'entre l'ancienne ville et la ville nouvelle, il y a un passage. Ce passage, c'est l'objet du concours de cette année, qui était intitulé « Le pont ».
Le trait d'union
entre les deux, la ville ancienne. Et l'année prochaine, ce sera justement la conclusion, c'est-à-dire comment on développe une ville de 100 000 habitants existante et avec sa liaison par le pont et avec une structure nouvelle qui, elle, tient compte de tous les phénomènes contemporains et en particulier de la densification nécessaire, de l'économie de surface, de l'économie d'énergie, etc.
Donc c'est sur un cycle de
Alors ça, il faudra qu'on définisse un site et ça ne va pas être facile.
Donc ça, c'est la deuxième année cette année. Et vous avez même un lauréat cette année qui a concouru l'an dernier et qui avait déjà été récompensé,
alors,
qui avait obtenu le troisième.
J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Et
c'est Vincent Champier.
Il me disait, c'est fichu, je ne peux plus me représenter parce que j'ai atteint la limite d'âge. J'ai dit non. Et la limite d'âge, c'était pour le premier concours. Vous êtes reporté d'un an parce que vous êtes lauréat. Vous êtes de nouveau lauréat, vous êtes encore reporté d'un an. Et j'ai dit, ça serait dommage qu'après avoir fait toutes les différentes étapes, vous oubliez la dernière, qui est vraiment la consécration du projet triannuel.
Donc les lauréats sont d'office amenés à concourir, on va dire.
Ils sont amenés à concourir voilà, s'ils le veulent,
s'ils
bien
le veulent.
Entendu.
C'est pas d'office,
sur
s'ils le veulent.
L'année suivante.
Voilà.
Canal Académie.
Claude Parent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce nom de nouvel établissement humain ? Qu'est-ce que vous avez voulu
en gros,
avec la section d'architecture ?
Les mots vieillissent.
Oui.
Et les hommes vieillissent pas avec les mots. Et il faut leur comprendre que si, qu'il y a un rapport étroit entre le mot qui vieillit et le sens de ce mot-là. Par exemple, on a commencé à faire entre nous, même à l'intergroupe, quand on réfléchissait, on a commencé à dire, je viens même de faire une conférence là-dessus à l'abbaye de Fontenay.
Beaulieu, hein.
Avec un Beaulieu, mais public dont on ne sait rien, parce que c'est un public est extrêmement mélangé et c'est un peu désorientant de se trouver comme ça, un public aussi libre. Où il y a des vieux, des jeunes. Elle leur a expliqué qu'il y avait déjà trois âges, s'ils ne se rendaient pas compte. Il y a l'âge historique, c'est la cité. À quoi servait la cité ? La cité, c'est là aussi, comme l'école, c'est un enfermement volontaire de protection. Le fameux tracé de Romulus et Rémus, sacralisé par la mort du frère qui avait osé sauter par-dessus, c'était le fait que dans ce tracé, dans cette limite qui n'était qu'un trait de charrue, les gens qui étaient dedans n'étaient pas les mêmes que les gens qui étaient dehors. Donc ce mot de cité sacré, on l'a toujours traîné jusqu'au XVIIIe siècle où il y avait cette différence entre les gens du dedans et les gens du dehors. Les gens du dedans étaient les gens bien, les gens du dehors étaient les gens un peu plus évanescents. Je les appelais, moi, dans l'histoire du monde, les aléatoires, parce qu'ils n'avaient pas de maison, ils avaient une cabane, ils avaient du truc qui pouvait être détruit.
Bon. Et les Grecs les appelaient les métèques.
Voilà. Alors, tout ça est fini, a fini rapidement, et on est arrivé à quoi ? À la ville. Bon, c'est un grand pas entre la ville et la cité, alors que des architectes, dans l'enseignement notamment, nous ont toujours raconté que la cité et la ville, c'était pareil, sinon qu'il y avait un changement de dimension. Ils n'ont pas voulu admettre que le changement de dimension était le changement de nature profonde. Mais maintenant, on est au troisième âge. On voit bien que nos villes s'éparpillent de partout, qu'elles se constituent avec des 50 000 habitants qui se rajoutent chaque année dans le n'importe quoi de ce qu'on appelle souvent les banlieues, qui ne sont même plus les banlieues pavillonnaires, qui sont des choses beaucoup plus inquiétantes. Et il faut donc que, dès l'origine, les jeunes gens qui veulent faire de l'architecture gomment ce mot de ville dans leur tête parce qu'on leur en a parlé pendant 25 ans. On a fait les théories politiques sur la ville, notamment quand il y a eu la fameuse échappée marxiste sur la ville, etc. C'était le sigle qui servait de réflexion avec la sociologie qui est arrivée en force. Et puis l'architecte, de plus en plus, il était à la queue la leu pour peindre des façades ou peinturlurer des fenêtres. Bon, nous ne voulons pas de ça. L'architecte est un grand métier. Ça a toujours été un grand métier dans les pyramides, ça a été un dieu vivant, on ne demande pas ça. Il a été un grand dans les villes, on a fait des villes entières ont été faites et conçues par les architectes. Maintenant, nous avons cet établissement humain, nous voulons que l'architecte reprenne une position là-dessus. Pour ça, c'est pas Folasson et moi, à nos âges, même si on a un glorieux passé, qui allons faire quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est les jeunes. Donc il faut qu'ils se mettent établissement humain pour changer les mots, changer donc la façon de penser, et avec ça, sur 3 ans, en enfonçant bien le clou comme il sait le faire, comme Folasson sait bien le faire, on espère modifier un petit peu les rapports de l'architecte et de son rôle.
Un rôle de...
Un rôle d'incitateur.
Et de coordinateur aussi.
Et de coordinateur, d'incitateur, de développement de l'idée, d'imagination. C'est-à-dire, l'imaginaire, maintenant, ça ne sert plus à rien. Ça sert à d'autres professions. Mais nous, nous avons abandonné. Alors, remettre les jeunes dans la liberté de parcourir et de se servir et de projeter leur imaginaire, c'est tout ce qu'on demande. On ne leur demande même pas de faire de beaux dessins.
Vous exagérez. Et alors, il s'agit rien de moins que d'inventer un nouveau mode de vie, Michel Folasson. C'est quand même très ambitieux ce que vous avez proposé.
Oui, c'est lié. C'est repenser le mode de vie. Et toute notre vie actuelle est finalement basée sur le gaspillage. Et je me rappelle quand j'étais jeune, ça m'indignait, et je me rappelle d'un professeur à qui j'avais dit ça. Il m'avait dit, mais la biologie, ça n'est que du gaspillage, mon vieux. Pour faire un enfant, on a je ne sais pas combien de milliers de gamètes qui sont lancés dans l'atmosphère. J'ai dit, mais ce n'est pas une raison. Et moi, ça m'a toujours tout à fait indigné. Et je constate que c'est devenu le dénominateur commun. Si la banlieue est née, c'est uniquement parce que, dans le fond, on a pensé à rien. On a laissé se développer les choses comme elles tombaient. Et elles tombaient mal.
Donc là, dans le projet de cette année, le trait d'union architecturale, ben on ne peut pas s'empêcher de penser, quand on regarde ce que les lauréats ont produit, justement, ont conçu, tous les problèmes de centre et de périphérie, puisqu'on a envie de voir ces passages entre les différents territoires existants. Bon, même là, s'il s'agit de villes futures dans des territoires décrochés, enfin, de la réalité actuelle, c'est intéressant d'avoir travaillé sur ces liens. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les projets présentés par ces jeunes générations, quand même ? Michel Folasson, globalement ? Peut-être, ou si vous voulez citer un des 3 lauréats, il n'y a pas de souci.
Non, mais si vous voulez, on avait donné une petite caractéristique d'attirer l'attention sur le fait que c'était sur le passage d'une autoroute, et que d'autoroute, on fréquente l'autoroute, et dans le fond, le seul accident qu'on peut rencontrer comme repère, c'est la station-service, qui est d'une banalité à pleurer, et qui n'a pas, donne aucune satisfaction à l'esprit. Donc, dans les projets que nous avons distingués, nous avons d'abord remarqué ceux qui avaient conçu le pont, puisque le sujet c'était le pont, donc qui était une transition dans le voyage et qui était une image singulière. Et cette image singulière, par exemple, on a un projet où le pont enjambe l'autoroute et se présente avec des formes qui sont banales peut-être, mais qui sont quand même un accident sur l'autoroute. On a aussi un projet dans lequel il y a une espèce d'ascension volumétrique qui permet d'indiquer qu'on va passer d'une ville basse à une ville concentrée. On a aussi un projet dans lequel des formes tout à fait singulières attirent l'attention avant toute chose. C'est une façon de répondre aux problèmes posés. Le vrai problème étant surtout de permettre une communication piétonne en particulier entre la partie neuve et la partie ancienne, qui auront forcément un modus vivendi tout à fait différent, mais qui doivent permettre aux gens de vivre en harmonie entre la partie ancienne et la partie neuve.
Donc, on va peut-être passer à la troisième partie de l'émission. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Claude Parent ?
Comme a dit Folasson, le mode de vie, il faut penser le mode de vie comme les relations entre les hommes. En fait, on connaît très bien les relations ou les manques de relations qu'il y a dans les villes actuelles. Et au-delà de quelle limite, il n'y a plus de relations du tout. Or, la ville, ça a été fait pour faire que les gens se rencontrent et par ces rencontres s'enrichissent, s'épanouissent, aient plus d'accueil les uns envers les autres, etc. Ça n'a pas été fait pour faire, encore une fois, des prisons du petit égoïsme tourné autour, bloqué autour de la famille. Ça a été fait dans un dynamisme pour obtenir un dynamisme des gens. Donc à ce moment-là, en analysant les villes actuelles, on s'est braqué sur deux difficultés. Les liaisons à l'intérieur de la ville sont de plus en plus difficiles, sont de moins en moins évidentes, sont de moins en moins naturelles. Vraiment, là, il y a un défaut. Au-delà d'une certaine dimension, même si on se replie sur les quartiers, c'est insuffisant, c'est très difficile. Et là, en particulier, les villes françaises, par exemple, par rapport aux villes, une ville comme Londres, est beaucoup plus perméable à ces rencontres. Bien qu'elle soit divisée en segments, quelquefois tout à fait opposés en architecture, il y a ce brassage que nous avons de plus en plus de mal à rencontrer à Paris. Donc il y a ça. Deuxièmement, il y avait une autre chose dont Fauriasson a parlé, c'est que quand même, de tout temps, ces villes, quels que soient les reproches qu'on leur fasse, avaient une idée de silhouette.
Oui.
De loin, on avait la silhouette d'une ville. Bien sûr, c'était facile parce que c'était centralisé autour de la cathédrale ou c'était centralisé autour de l'hôtel de ville, etc., etc. Mais qu'on aille à Gand ou qu'on aille dans le Midi, à Toulouse, il y a toujours des effets de silhouette qui existent et qui ont disparu totalement de nos façons d'agrandir les villes. Donc, il fallait demander aux concurrents de penser, de donner une silhouette à toutes ces choses, de donner des repères, de les fabriquer, de les penser, ces repères.
Des repères nouveaux, des repères dans le temps.
Repères qui est une autre forme que l'Église. Mmh. Puisque tout ce qu'on construit, c'est une dispersion. Par exemple, là, dans les deux voyages que je viens de faire, on voit
les éoliennes.
Ce n'est pas un repère. C'est un saupoudrage d'éléments comme ça.
Il y a aucun sur toute la Terre.
Il n'y a aucun repère. C'est la destruction de la notion de repère. Et dès qu'on en voit 10 ensemble, on est catastrophé. Alors qu'une, si elle est chez le voisin, comme on dit toujours, on peut l'apprécier de loin. Donc, il fallait que ces villes, par leur imagination créatrice, montrent des repères. Et si on regarde tout à l'heure un peu plus près certains projets, on verra qu'il y a une réponse là-dessus. Et ça, c'est très difficile aussi. Et un de mes grands trucs annonciateurs de la nouveauté de l'établissement humain, c'est que je ne souhaite plus, comme quelques confrères qui sont des révoltés, malgré leur âge, je ne souhaite plus que les rues, les boulevards, les places soient préalablement tracées par les ingénieurs, et pour les nommer, les ingénieurs des ponts. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient la sensibilité du tracé.
Ils ont
pourquoi
celui de la circulation.
Leur arroger ça, qui fait qu'une fois de plus, nous travaillons dans les parcelles qu'ils nous laissent libres entre leur maillage. Le maillage, si maillage il a, doit être fait. Et j'ai remarqué que dans les réponses,
il y a des choses très originales.
Il y avait un gros effort là-dessus sur la façon dont la distribution des gens dans les villes, dans les établissements humains.
Par où ils passent, comment ils se dirigent.
Même si on n'a pas. Fauriasson et moi, on a dit encore hier devant notre auguste assemblée, qui ne nous a pas cru du tout, on a dit que il y avait autant d'imagination et d'intérêt dans les projets qui n'ont pas été primés que dans les projets primés. Bon, ceux-là, pour une raison personnelle, ils ont plus attiré notre attention, ils ont mieux répondu, peut-être même au point de vue plastique et tout ce que vous voulez. Mais il y a, on est heureux parce que entre un et deux, il y a un progrès. Et si nous ficelons bien, ça va être difficile, il me l'a dit hier encore, si nous ficelons bien le programme du troisième,
de la troisième
et dernière partie, je pense qu'on aura fait un pas pour beaucoup de gens qui ne s'y attendent même pas.
Très bien, on va voir avec donc les réponses que les lauréats ont apportées.
Canal Académie.
Fabrizio Esposito, vous êtes le troisième lauréat du Grand Prix d'architecture 2008 de l'Académie des Beaux-Arts. Alors bonjour, merci d'être avec nous. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le projet que vous avez proposé et qui a été retenu par la section d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts ?
Bonjour à vous, merci de m'avoir invité ici. Je suis très ému de cette récompense de l'Académie des Beaux-Arts. Ce n'est pas la première, j'étais déjà lauréat en 2005 et j'avais donc déjà participé à ce concours.
Donc vous connaissiez déjà ce concours ?
Je connaissais très bien ce concours, j'ai déjà pendant la fin de mes études, j'avais participé à ce concours.
C'est un concours qui est connu parmi les étudiants ?
Absolument, oui.
D'accord.
Et il est ouvert à tous les Européens depuis 2002, en fait.
Ouais.
Donc, c'est à partir de là que j'ai eu droit
à y concourir.
Participer.
Alors, quelle était la fonction et l'image du pont habité pour vous, Fabrizio Esposito ?
Les ponts, ça relie forcément deux entités, deux points, A et B, dans les contextes des natures opposées, en imaginant un point A comme la ville existante et les points B comme la ville projetée, la ville future, la ville à construire, la ville finalement rêvée. Et les sujets de cette année visaient à permettre la transition entre les deux rives. Donc ces ponts permettent la transition et l'abandon de certaines habitudes à mon point de vue, qu'on pourrait définir barbare, car la planète, elle est plus en mesure d'absorber nos dépenses.
En quoi consiste votre projet, Fabrizio Esposito ?
Mon projet consiste à permettre ces transitions à différentes vitesses, à différentes échelles de déplacement. Cette transition, elle est faite par des différents modes de déplacement. On privilégie la marche à pied car on rêve d'un monde sans voiture, en tous les cas pas celle connue aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus légère, plus à l'échelle de l'homme justement.
En plus, dans le projet, il fallait que les véhicules n'excèdent pas les 20 km/h, je crois.
Absolument.
Donc c'est une voiture...
Une voiture à l'échelle de la ville finalement.
Voilà, ouais.
Car on essaye d'analyser les déplacements non plus par rapport à leur distance, mais par rapport au temps nécessaire pour les parcourir.
Alors, vous, dans votre projet, vous avez même imaginé qu'on pouvait se déplacer avec plusieurs moyens de transport, justement. Lesquels ?
En partant du plus rapide, donc, qui est absolument les TGV ou... Pour les liaisons de très grandes distances, j'envisageais les TGV qui est les plus sûrs et sûrement les moins chers en énergie aussi. On privilégiait bien sûr la marche à pied car on envisage bien sûr plus de piétons dans la ville. Et bien sûr, il y avait un moyen accéléré des marches à pied par les biais des tapis roulants, qui augmenterait notablement la vitesse. Et pour finir, un grand pont jusqu'au ciel par un dirigeable, par des ballons, dits ballons bus en fait, qui permettaient donc les liaisons régionales.
Alors, comment est votre pont habité ?
Le pont, il est conçu donc comme un espace de transition avec... pour permettre les franchissements de l'autoroute, car ces ponts, essentiellement, ils franchissent une autoroute de 140 mètres de large, encore dans un contexte d'hypothèse, en fait. Il fallait imaginer ces sites. Donc, j'ai envisagé un site au bas d'une colline, en fait, avec une rivière qui longeait cette colline et qui longeait l'autoroute. Du coup, j'ai agrandi encore les franchissements à faire. Au rez-de-chaussée, donc, au rez-de-chaussée, au niveau du sol, il y a plutôt une continuité piétonne et aux différents niveaux, en fait, c'est à plusieurs niveaux, ces ponts se développent sur plusieurs niveaux et permet en fait de faire confluer tout flux, en fait, des différents moyens de transport sur un seul grand tuyau qui résumerait en fait les nouveaux déplacements en ville.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous tirez de l'expérience de ce concours ?
C'est donc une expérience sans doute enrichissante pour les lauréats, car ça, économiquement, on met à l'abri du besoin pendant quelques temps. Et professionnellement, ça ouvre plein de portes, plein de possibilités pour se lancer dans la vie active, car l'objectif de tout architecte, c'est la réalisation de l'architecture. Même. Donc, ces concours d'idées, c'est l'opportunité de s'exprimer et d'exprimer ses propres idées sur des sujets d'actualité.
Fabrizio Esposito, est-ce que vous pouvez nous décrire le pont habité que vous avez conçu, dessiné et qui est sorti aussi des logiciels informatiques de ce concours ? C'est un pont très futuriste, très élégant. Et puis, il y a de l'eau un petit peu partout dans votre projet.
Alors. Absolument. L'eau, c'est un des moyens de transport que je suggère, car c'est pour moi, ça rappelle des valeurs. C'est sûrement utiliser la force du courant, ça impose des rythmes. Ça, c'est sûrement pas bruyant et pas. C'est les plus écologiques, finalement, je trouve.
Alors, décrivez-nous ce beau pont.
C'est un grand bâtiment qui se développe sur 500 mètres de long. Et qui donc, comme je disais tout à l'heure, permet les transitions. Ces transitions sont accompagnées par des espaces verts, couverts ou à l'air libre, et des bassins d'eau dans lesquels on pourrait envisager des activités sportives ou ludiques.
On fait plus qu'habiter sur ce pont, on y travaille, on y habite. Il y a des espaces de loisirs, c'est ça ?
Des espaces de loisirs, c'est un vrai quartier. Mmh. On peut même y vivre, car on peut imaginer qu'on puisse avoir besoin d'y rester quelques temps, d'y vivre quelques moments pour profiter de la transition et au sommet de ces successions de tours qui accompagnent également la transition, pouvoir au sommet de ces tours regarder d'un côté la ville existante et tout ce qu'on a entre guillemets abandonné et viser la ville nouvelle et rêver de cette nouvelle destination. Bien sûr, en accompagnement de cette transition, il y a des commerces, des activités qui permettent de donner vie à ces quartiers les jours comme la nuit et pour tout âge, car des équipements comme des crèches peuvent être envisagés, bien sûr, des grands équipements culturels qui permettent...
Sur le pont ? Juste sur le pont habité ou...
Non, ça accompagne, c'est une partie de la programmation qui
d'accord.
Par d'autres bâtiments, reliés par des passerelles à plusieurs niveaux.
Donc votre pont, il est comme une colonne vertébrale ?
Absolument, on peut les lire comme un organe des franchissements qui, par ses capillaires, par ses veines et ses réseaux, résume toutes les axes de la ville existante pour aboutir sur un grand axe qui se prolonge vers la ville future.
Canal Académie.
Michel Folliasson, vous êtes président du jury avec Claude Parent. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet présenté par Fabrizio Esposito ?
Nous avions fait un programme dans lequel on avait mis en évidence que les phénomènes que l'on rencontre sur l'autoroute habituellement sont du ressort uniquement des stations-service. C'est donc une image qu'on connaît par cœur qui n'a aucun intérêt. Et on demandait donc aux concurrents, à l'occasion de la traversée d'une cité, de créer l'organe nécessaire pour relier l'ancienne ville à la ville nouvelle. Et cet organe serait un espèce de point de repère, ces villes étant espacées, mettons, d'une moyenne de 250 km, qui est exactement le genre de parcours qu'il faut faire, qu'on peut faire sans arrêt sur l'autoroute, mais avec l'obligation de s'arrêter pour se reposer, etc., ce qui participe des conseils habituels de la bonne conduite sur autoroute. Et il est évident qu'à partir du moment où on a une silhouette singulière qui se présente, on a intérêt à regarder, éventuellement s'arrêter, se reposer, éventuellement pénétrer dans ce truc-là pour voir de quoi il s'agit. Et le projet de Esposito nous a plu parce que il a créé une silhouette tout à fait singulière. Et on voit d'ailleurs dans la perspective qu'on voit en haut à droite de son châssis que quand on arrive là, il n'y a pas de doute, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose est annonciateur d'un phénomène. Ce phénomène, c'est une ville qui est en train de se construire, de se développer d'une manière autonome, mais liée par le trait d'union que représente justement l'image qu'on est en train de découvrir.
Et l'imagination du candidat, là, vous la voyez au travail ?
Ah ben écoutez, c'est une imagination qui collinçait avec l'idée directrice parce que, du projet, parce qu'il a créé un espèce de mouvement ascensionnel dans une espèce d'épine dorsale qu'il a créée pour la promenade des piétons, ce qui était donc demandé dans le programme, et que cette épine dorsale se caractérise par des hauteurs variables et qui sont toutes ascendantes. Donc c'est un phénomène visuel très intéressant, et cette ascendance évidemment explique qu'on va arriver vers une ville nouvelle qui n'a rien à voir avec la morphologie d'une ville de 100 000 habitants comme on peut en connaître en Europe, et en particulier en France, qui sont des villes qui ne dépassent pas les 7-8 niveaux à tout casser d'habitation. Alors que maintenant, dans les villes nouvelles que nous construirons, elles ne peuvent plus être comme les... J'extrapole un peu, mais ça fait partie, si vous voulez, de l'ensemble du concours, et ça va se trouver l'année prochaine, dans la conclusion. C'est que nos villes ne peuvent plus être une somme de gaspillage, comme on l'a toujours fait. Gaspillage de l'espace, gaspillage de l'eau, gaspillage des énergies, gaspillage de la voirie de dessert, etc., etc. Les Chinois qui sont en train de faire des projets insensés de villes de plusieurs millions d'habitants et entièrement avec des bâtiments individuels, c'est un scandale. Parce que vous voyez immédiatement la flotte qu'il faut amener partout, les évacuations, les trucs, la voirie, mais on multiplie tout ce qui est cher, on le multiplie, et tout ce qui est économique, on l'élimine. Or, actuellement, nous sommes obligés de faire des villes qui sont des villes concentrées.
Merci, monsieur Folliasson. Vincent Champier, bonjour.
Bonjour.
Vincent Champier, vous êtes lauréat du premier prix du Grand Prix d'architecture 2008 de l'Académie des Beaux-Arts cette année. Et vous avez déjà été l'an dernier lauréat.
Oui.
Là, vous aviez obtenu le troisième prix cette année. C'est la consécration, c'est le premier prix. Alors tout d'abord, bravo.
Merci.
Mais je voudrais que vous nous présentiez globalement le sujet, la proposition que vous avez faite sur le sujet de cette année qui s'appelait le trait
d'union.
Le trait d'union architectural.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre projet ?
Alors, effectivement, j'avais déjà travaillé sur ce projet l'année dernière. Donc, j'avais déjà fait émerger deux bâtiments. Tours, qui était pour moi un repère dans la ville, et la base de la tour, un croissant, qui était les équipements qui commençaient à s'accrocher à cette tour, qui avait pour vocation essentiellement, on va dire à 50-70% d'être de l'habitation. Cette année, on devait franchir une autoroute, s'accrocher sur le bord d'une autoroute, pour aller vers une ville et garder derrière soi un territoire à aménager. J'ai longtemps hésité comment positionner ce bâtiment et j'ai dû finalement trouver un autre bâtiment pour faire le franchissement puisque le premier n'avait pas cette vocation. Alors j'ai essayé d'orienter mon travail autour de trois points principaux qui étaient l'espace, la perception de l'espace, le paysage urbain, l'accessibilité, donc comprendre le projet, comprendre les bâtiments, savoir s'y intégrer, y évoluer. Et enfin, l'autonomie qui non seulement était faisait partie du sujet, mais qui en plus d'être une...
L'autonomie au niveau des économies, d'énergie, c'était ça
c'est à tous les niveaux, donc c'est de l'économie d'espace, de terrain, l'économie d'énergie. Et à cela, moi j'ajoute, ça fait partie du projet je pense, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Je pense que l'économie passe aussi par le bâtiment. C'est en fonction de quel bâtiment on fait, ça peut coûter plus ou moins cher, ça peut mettre en place des moyens techniques ou des ressources naturelles plus ou moins importantes. Ça peut prendre plus ou moins de temps à entretenir, à construire, faire vivre, donc, et à gérer après, exactement.
Alors, quelle idée de franchissement avez-vous trouvé ?
Alors, le franchissement, effectivement, c'était quelque chose d'important. Je voulais que les gens se retrouvent, se sentent un peu libres d'aller, s'ils doivent aller tout droit, enfin franchir dans un sens donné, qu'ils puissent aussi déambuler, aller à droite, à gauche, qu'ils puissent choisir le moyen de traverser, le chemin pour le faire. Donc j'ai voulu ça comme une succession de petits passages, de couloirs ou de fonctions ou d'animations. Donc c'était un passage un peu à la fois éducatif pour appréhender justement ces nouvelles économies d'énergie et de surface et de temps,
oui.
Parce que le temps aussi fait partie un peu de la démarche. Et
alors ce pont habité, on va dire la personne, les personnes ont plusieurs voies possibles pour l'emprunter.
Ouais, plusieurs voies, donc il y a une petite succession de programmation.
Ouais.
Donc au cœur des ateliers d'artistes qui, eux, sont là pour émettre en valeur des matériaux dont plus personne ne voudrait. Et en même temps s'exprimer, se montrer.
Donc vous avez imaginé le pont habité avec des sortes de galeries.
Des galeries, oui.
La galerie au sens galerie d'art, c'est ça ?
Il y a une galerie d'art, oui. Il y a un passage en plein air au centre,
ouais.
Qui justement voit ces petits ateliers émerger et on peut déambuler au milieu, voir ce qui s'y passe, s'y arrêter si on veut.
Un espace de promenade.
Sur un côté, il y aura ce que j'appelle le collecteur, qui est l'endroit où chacun va pouvoir déposer les matériaux dont il ne veut plus. Et parfois même en récupérer s'il voit quelque chose qui peut l'intéresser, sachant que c'est à vocation d'être valorisé, recyclé. Et effectivement, de l'autre côté, une galerie, qui est un peu l'évolution. Donc on collecte, on travaille les matériaux, puis après on les expose. Donc c'est une galerie qui longe aussi, qui est une nouvelle séquence de passage. Ensuite, effectivement, j'ai pensé au jour où il pleuvait, donc j'ai mis une galerie abritée.
Oui.
De part et d'autre de cette galerie, il y a différents accès, de différents petits commerces de proximité, on va dire, qui pourraient être un kiosque à journaux ou un fleuriste, des choses qu'on voit. Parce que ce pont, en fait, c'est effectivement un lieu de passage, donc il peut se passer plein de choses, mais on n'a pas vocation d'y rester. C'est vraiment une transition. On est là, on arrive, on va vers autre chose, on peut revenir en arrière. Et enfin, il y a, sur la dernière programmation que je trouvais intéressante, c'était de mettre un hôtel, qui était justement le symbole de
l'arrêt pour le voyageur.
Voilà, et en même temps, de l'entre-deux, on passe, mais aller vers l'ancienne ville parce qu'on est amoureux de la vieille pierre ou vers la nouvelle pour découvrir ce que c'est et participer en fait à un nouvel élan. Donc on peut se mettre entre les deux pour apprécier les deux, pour hésiter, pour prendre le temps ou juste ne pas choisir, rester entre les deux villes.
Donc il y a plusieurs niveaux sur cet espace de pont habité là.
Forcément, oui.
Ouais. Alors, décrivez-nous tout ça.
Forcément, on doit franchir l'autoroute, donc on est obligé de se surélever un petit peu.
Ouais.
Entre les deux, en fait, entre cette dalle qui permet de franchir, et encore le mot dalle, moi j'aime pas trop, mais pour moi c'est la restitution d'un nouveau sol pour franchir l'autoroute. Donc là, sous ce nouveau sol, il y a tout un tas forcément d'équipements un peu techniques et de sécurité, de galeries de ventilation, d'issues de secours. Il y a également tout ce qui va participer, ce concept de collecte et de recyclage des déchets. Donc on va avoir des petites galeries qui vont permettre d'absorber tout ce qui va être collecté vers l'équipement de tours et de croissants, qui lui a une fonction vraiment de gérer tout ça avec un sous-sol technique.
C'est à la fois une tour d'habitation et une tour qui a des fonctions
tout à fait.
J'allais dire industrielles, non, mais enfin à petite échelle de recyclage.
C'est ça qui doit assurer l'autonomie de ses habitants, donc qui doit pouvoir absorber en fait ses déchets, qui doit pouvoir alimenter la tour de tous ses besoins.
Voilà.
Donc il est prévu en sous-sol des sous-sols un peu techniques de stockage, de fonctionnement. Qui permettent également de traiter l'arrivée et l'évacuation de denrées et de différentes choses. Donc il y a un réseau qui pourrait être ferré tel qu'on les connaît aujourd'hui, où il y a des moyens, peut-être encore à l'étude, de pneumatiques qu'on connaissait avant, mais qui pourraient être à plus grosse échelle, et par des moyens d'air comprimé, donc des espèces d'énergie qu'on ose rêver propre, qui pousseraient juste avec de l'air des petites capsules qui iraient sur un centre de tri plus commun à cette nouvelle ville.
Claude Parent, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le projet présenté par Vincent Champier ?
Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il avait fait... C'était celui qui, l'an dernier, avait fait la tour et qui m'a fait grincer des dents l'an dernier. Et s'il a retenu mon attention tout de suite, c'est qu'il avait l'air d'avoir fait le meilleur projet cette année. Comme quoi, je vous présente mes excuses, mon cher.
Ah vous, c'est très bien.
Alors, parce que d'où partons-nous ? Nous partons du pont. Le pont, c'est une invention extraordinaire. Le type qui a inventé un pont savait qu'il a fallu des siècles. Et ce n'était pas facile à faire. Et plus le pont était large, plus le fleuve était large. Parce que ces fleuves, c'est les barrières géologiques les plus terribles entre la communication des gens. Bon. Alors un pont, on en a réduit, on sait les faire, mais finalement c'est un peu bête. C'est uniquement pour faire circuler des automobiles d'un point à un autre et franchir. Bon, on franchit, mais ce n'est pas un truc pour la ville, puisqu'en principe, c'est rien que les autos qui marchent. Bon. Donc, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'il s'agissait d'enrichir la notion du pont. Ne pas lui faire sa fonction primitive. Et c'est pour ça qu'on avait refusé que les voitures passent sur son pont. Donc déjà, il était coincé, il était dans le piège. Bon, après, il fallait lui trouver un usage, qui soit un usage urbain, et découvrir un programme, inventer un programme d'usage pour cet objet qui est un objet coûteux. Et il a très bien répondu à ce truc-là. Bon, qu'il l'ait fait buter sur sa tour, c'est une astuce intelligente d'inventeur de plans de masse. Ça, c'est bien. J'ai rien à dire contre. Au contraire, quand on regarde d'avion, tout de suite, les gens du jury ou la première perspective ont été impressionnés par la maîtrise du territoire. Comme ça, on voit bien, on a l'habitude, nous, des plans de masse. Tout ça, il y avait un intérêt. Mais ce qui nous a passionné, ce qui moi aussi m'intéresse toujours en le relisant avec lui tout à l'heure, c'est la richesse qu'il a donnée aux activités du trait d'union. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi dépenser tant d'argent pour aller simplement d'un point à un autre. Et ce qu'il a fait, en plus avec sa tour, il a réussi de répondre à deux demandes. En fait, nous avions dans le deuxième temps du concours, beaucoup parlé d'étape, la notion d'étape. Comme là aussi, c'est une très vieille notion, la route de Compostelle, l'étape. C'est l'étape de la route de Compostelle qui a marqué des villes, des églises. Et encore maintenant, hier, je lisais un bouquin dans lequel le type disait, dès que j'aurai un moment de tranquillité dans cette vie, il n'est ni moi ni rien, je ferai la route de Compostelle. Et chaque année, il y en a. Et dans ces routes-là, l'étape était quelque chose d'essentiel. Dans les villes romaines, en Gaule, elles étaient à l'étape d'un certain nombre d'heures de marche des légions. On crossait les villes. Dans la Prusse, c'est comme ils étaient à cheval, on construisait les villes à un certain nombre d'heures de marche des chevaux. Vous voyez comme c'est important, c'est pas seulement « Ah ben le site est beau !» Non, c'est une dimension très précise et en plus, il faut que ce soit protégé. Alors lui, il a réuni les deux, grâce en plus à son signal, grâce à la richesse de cette histoire-là, on a cette notion de complexe, d'être à la fois une étape sur quelque chose qui n'a rien à voir, parce que c'est un ruban qui, lui, alors débite de la bagnole comme ça, à toute vitesse, rien à voir. Et puis, deux villes qui n'ont pour le moment rien à voir entre elles. Et c'était toute la richesse du programme et toute l'espérance du programme. Et je dois confirmer que lui, il l'a magnifiquement réussi. Voilà, ça a sauté aux yeux.
Michel Folliasson.
Écoutez, après l'exposé que vient de faire mon ami Claude Parent, je crois qu'il ne reste plus rien à dire, parce qu'il a été extrêmement complet. Effectivement, il a bien expliqué pourquoi ce projet a attiré toute notre attention. Moi, je voulais simplement dire que tout à l'heure, notre lauréat a exposé son projet. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand il a commencé à expliquer tout ce qu'il avait mis dans son pont,
oui.
J'ai senti qu'il avait rêvé son pont.
Vincent Champier ?
Oui, effectivement, moi je me suis toujours baladé dans le pont. Je me souviens du projet l'année dernière où j'avais le sentiment de pas avoir réussi à exprimer correctement et l'idée et de pas avoir communiqué correctement l'image. Là, j'ai voulu me projeter à la fois à l'échelle des gens qui allaient traverser ce pont, mais à la fois à l'échelle des gens qui allaient appréhender ce pont. Et du coup, j'avais une sorte de recul, comme pour la présentation du projet. Donc j'avais envie de le transmettre, vraiment, de le partager, quoi. Et l'autre chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure, parce que finalement c'est presque omniprésent, c'est que effectivement cette ville, donc ce pont qui franchit ce ruban à automobile là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc cette ville, elle a une vocation d'être, elle, hermétique à la voiture qu'on connaît aujourd'hui, donc qui pour moi est depuis longtemps un outil qui n'est plus à l'échelle, qui n'est pas à l'échelle urbaine, qui est trop lourd, qui est trop rapide, qui est trop bruyant. Alors que la ville, on est limité à 50 km/h, qu'on a très peu de place, que des rues entières sont remplies de voitures. Là, j'ai imaginé, en fait, et je me suis projeté dans un environnement où les gens pourraient réussir à se passer de leur voiture et seraient contents de le faire. Donc j'ai essayé de les inviter à la marche à pied par ce pont. C'est pour ça que j'ai voulu une espèce d'espace assez large où les gens se sentent bien, où ils apprécient de ne pas avoir dans leur environnement des voitures. Oui, ils ont forcément la possibilité de pouvoir se déplacer, toujours, d'avoir à la fois des véhicules individuels à leur disposition, mais à la fois un réseau de transport qui leur permette d'aller dans la vieille ville, mais aussi partout dans la nouvelle ville.
Alors moi qui ne suis pas du tout architecte, ce que je vois, ce que j'ai compris des panneaux exposés, parce que les projets des lauréats ont fait l'objet d'une exposition à l'Institut de France pendant quelques jours. Quand moi je regarde le pont habité présenté par Vincent Champier, effectivement, ce n'est pas le pont linéaire habituel. Déjà, il a une forme, il y a plusieurs voies possibles, et puis il a cette forme un peu convergente de large triangle, qui n'est pas tout à fait un triangle, moi je ne connais pas bien les formes géométriques précise, mais moi ce qui me plaît comme ça à vue d'œil, c'est la variété de ces passages, et c'est justement ce côté non linéaire. Moi, et pourtant ça a l'air d'aller droit, mais c'est ça qui moi que je retiens. J'aime bien votre promenade là. Effectivement, bon, il y a un passage, mais on ne va pas tout droit. Même chose pour les parties, je pense que c'est ça, les parties où on peut déposer, c'est ici. Ah, là, c'est un peu plus droit pour déposer les déchets. Mais on voit que dans les différents espaces que vous avez imaginés sur ce pont habité, il y a plusieurs façons de traverser. Voilà. Merci Vincent Champier d'avoir présenté votre projet.
Merci à vous.
Et merci Claude Parent et Michel Folliasson d'être venus présenter le Grand Prix d'architecture 2008.
La prochaine fois, on vous invite au jury, parce que vous venez de parler de ce pont d'une manière beaucoup plus poétique que nous, beaucoup plus près encore plus de du bénéfice d'usage que ça donne. Vous venez au jury.
Bon, c'était pas le but. Merci Michel Folliasson.
Je vous en prie.